Radio Starbeck.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Lorsqu'on se retrouve à une frontière et que l'on porte une grande cage contenant un lion, tout le monde pose son arme à terre et nous aide à porter.
Quand on soigne les bêtes, on fait baisser les armes. Ce soir, je vous emmène à la rencontre d'un homme étonnant. Son métier, vétérinaire dans les zones de conflit. Il sauve les animaux, mais pas seulement, vous l'entendrez. Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, au Japon, en Tunisie, en Albanie notamment. 18h50, la chronique pour tous de Julia Foyce qui nous parle du tabou des règles, très bien partagé dans le monde. De la femme de la semaine aussi, qui était un homme il n'y a pas si longtemps. On ira voir également la une de Parents Magazine aux États-Unis. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four qui a lu le traité franco-allemand et qu'il y a vu, pas grand-chose, vous verrez ça. Mais avant nous partons au Venezuela, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
27 militaires arrêtés hier qui ont tenté de se soulever contre le régime de Nicolas Maduro alors que l'opposition prévoit une très grosse manifestation ce mercredi pour contrer le régime soutenu par, on verra soutenu par qui d'ailleurs, par plus grand monde aujourd'hui. Et puis quelques phrases très intéressantes aujourd'hui du vice-président Mike Pence en direction de la rue vénézuélienne. Il se passe des choses de ce côté-là. Bonsoir Paola Vasquez-Lezana.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en anthropologie sociale et ethnologie, chargée de recherche au CNRS. Vous avez notamment écrit le Chavis un militarisme compassionnel, c'est édité par la Maison des Sciences de l'Homme. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord, Paola Vasquez-Lezama, dans cette tentative militaire et ces 27 personnes arrêtées? Est-ce que c'était vraiment une tentative de coup d'État? Comment est-ce qu'on qualifie ça? Comment on appelle ça, en fait?
En fait, même si c'est une toute petite insurrection, c'est peut-être la preuve que le message de Guaido, des nouveaux leaders de l'opposition vénézuélienne, concernant une amnistie des militaires, si jamais ils se placent du côté de l'opposition, ces messages-là, il est peut-être entendu. C'est-à-dire que les militaires vénézuéliens sont dans une position très difficile d'arbitre ou même des médiateurs. Ils doivent décider dans quel camp ils vont soutenir. Soit l'Assemblée nationale d'opposition qui est désignée comme légitime par la communauté internationale et par des grands secteurs de la population vénézuélienne, soit le gouvernement de Maduro. Donc même si elle est toute petite, c'est un mouvement important à prendre en compte.
Parce que jusqu'à présent, est-ce qu'on peut dire que le dernier rempart de Maduro, c'est l'armée? Pour l'instant, l'armée, les généraux sont toujours derrière lui.
Voilà, disons qu'ils n'ont pas beaucoup non plus de manière de se manifester, tant que c'est un gouvernement extrêmement répressif et c'est un gouvernement dictatorial en fait. La répression elle est très importante, donc les coûts politiques pour les militaires de se manifester est très élevé. Sauf que comme ça s'écroule, il y a cet effondrement... La question d'une amnistie devient extrêmement intéressante pour eux. Donc là, peut-être, il y aura des prises de position ou pas, parce que quand même, ça fait longtemps que les Vénézuéliens attendent cette manifestation de la part des forces armées.
Et alors, parce que, est-ce que ça doit forcément, s'il doit se passer quelque chose contre Maduro, est-ce que ça doit forcément commencer par l'armée? Parce que dans la vidéo qu'avaient laissé ces 27 militaires, on sentit bien qu'ils disaient « Allez-y, descendez dans la rue ». Il y a eu des petits groupes, ça a existé ici et là. Mais on a l'impression que les gens regardaient ça en disant « Attendez, attendons de voir d'abord ».
Non, il y a eu des manifestations pendant des longues heures à Caracas, en fait.
D'autres endroits, il y a eu des choses sporadiques.
Dans d'autres endroits, surtout dans quel type de quartier? Parce que l'année dernière, c'était surtout les classes moyennes et les classes aisées qui manifestaient sous l'égide de cette opposition qui appelait dans la rue. Et là, c'était tout un autre phénomène. C'était des émeutes, pas des pillages, mais des émeutes, des fermeture des rues, etc., de la part des gens qui viennent des quartiers populaires, surtout du nord de Caracas, cette partie qui est près du palais présidentiel. Ce sont des quartiers très, très traditionnels qui manifestent très peu. C'est pas les bastions de la révolution les plus classiques, disons, du chavisme, mais c'est d'autres quartiers. Ça a été assez étonnant de voir cela, des routes coupées, etc., dans des quartiers qui sont des quartiers populaires et qui souffrent terriblement de la crise actuelle, en fait. Et donc là, des discours, il y a comme il y a un besoin de changement, une demande de changement de ces milieux populaires-là, qui peuvent rejoindre donc une demande de changement politique de la part de l'opposition. Ça, c'est le rôle des chevilles ouvrières qui peut avoir Guaido, en fait.
Alors, Paola Vasquez-Lezama, il y a eu ces militaires, il y a effectivement quelques émeutes sporadiques dont vous nous parlez à l'instant, et puis il y a eu ça aussi aujourd'hui, vous allez me dire ce qu'il faut en penser.
Hola. I'm Mike Pence,
the Vice President of the United States. And on behalf of President Donald Trump and all the American people, let me express the unwavering support of the United States as you, the people of Venezuela.
Voilà, c'est le vice-président Mike Pence, donc hein, qui envoie un message, grosse vidéo, 1 minute 40 sur Twitter. Il commence en espagnol, il y en a une autre version d'ailleurs. Il sait très bien à qui il s'adresse. Il envoie son support. C'est un anglicisme. En tout cas, on a l'impression qu'il envoie son soutien. Merci beaucoup. On a l'impression qu'il envoie la rue du Venezuela dehors. Il est en train de leur donner un blanc-seing ou pas?
Ben disons que la communauté, c'est pas différent de ce qu'a fait la communauté internationale jusque-là, sauf que les ambassadeurs qui sont à Caracas sont pas Mike Pence, mais
vice-président des États-Unis.
Tout
même.
À fait. Non, mais tous les ambassadeurs de la communauté européenne, par exemple, ont déclaré qu'ils sont encore sur place à Caracas et qu'ils n'ont pas coupé les liens avec les pays, qu'ils n'ont pas été renvoyés chez eux par Maduro. Tous considèrent le gouvernement de Maduro illégitime depuis la prise des pouvoir de 10 janvier. Donc, disons que Pence, c'est une gesticulation très importante, mais ça, ce n'est pas différent à ce qui est toute la communauté internationale qui ne reconnaît pas la légitimité
mais
du gouvernement de Maduro.
Est-ce que ça veut dire que si demain, pendant la manifestation, il y a vraiment du monde, il se passe quelque chose, est-ce qu'il peut y avoir un rôle joué par les États-Unis? Est-ce que c'est ça le message qu'il envoie ou pas?
Ben, je pense que déjà, la communauté internationale a fixé la position. Est-ce qu'ils peuvent venir encore? C'est des sanctions encore plus forte. Et ça, c'est une crainte du gouvernement et de la population entière, parce que ces sanctions, pour l'instant, visent des fonctionnaires qui font des investissements pas légaux aux États-Unis ou dont l'origine des fonds n'est pas très nette.
Quoi. Alors, parce que vous l'avez dit, effectivement, il n'y a plus personne pour soutenir Maduro. Enfin, il reste un peu Cuba, il reste un peu Nicaragua, de Bolivie, l'Iran, la Chine et la Russie, pour faire ça de manière assez schématique. Qu'est-ce qui tient encore ce gouvernement aujourd'hui? En fait, qu'est-ce qui fait qu'une assemblée qui est une assemblée d'opposition, qui existe, une rue, vous l'avez dit, la classe moyenne, mais pas seulement, aujourd'hui même les gens plus pauvres qui crèvent de faim littéralement, il y a 3 millions de personnes qui sont parties, qu'est-ce qui fait que ça tient encore?
Je pense que c'est la répression, mais c'est difficile à expliquer. C'est la peur, c'est devenu une dictature. Il y a les conditions dans lesquelles, surtout c'est ambigu, cet autoritarisme est très ambigu dans lesquelles vous avez peur parce que ça peut vous arriver ou pas. Une répression très forte, la prison, torture, etc. Et surtout, il y a aussi quelque chose de désinformation totale, en fait. Le Venezuela est un pays, la population vénézuélienne est une population abandonnée, qui n'a pas accès à l'information, que c'est très difficile de ce qui se passe, de savoir ce qui se passe pour eux, même à côté, à 3 rues. Donc, c'est un phénomène de comment dirais-je, d'emprisonnement dans ces mêmes frontières. Et ça fait que les gens soient dans une logique de la survie à cause de l'énorme crise économique et sociale qu'il y a. Donc, le gouvernement a su, déjà depuis Chavez, de comment établir des bases fortes à partir d'un clientélisme qui marche très bien. Et maintenant, la compassion dont je parlais dans mon livre, elle est disparue pour ouvrir la porte à la répression la plus forte. Donc, c'est pas une réponse simple. Hein.
Non. Effectivement, c'est évidemment très compliqué. Vous le disiez, manque d'informations. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'ils ignorent de leur propre pays, les Vénézuéliens? Parce qu'on a l'impression que l'état de dégringolade absolue dans lequel il est tombé économiquement, ça personne ne l'ignore parce que c'est tous les jours dans le travail, dans le salaire qui a disparu parfois, dans la nourriture qui n'est plus là, pénurie de médicaments, pénurie de nourriture. Enfin, c'est désastreux. Donc, qu'est-ce qui leur manque comme élément d'information?
Ben, savoir ce qui va se passer le lendemain. C'est-à-dire c'est très difficile de vivre aujourd'hui avec un salaire qui ne vaut rien et que le lendemain va valoir encore moins. Donc déjà ça sème une incertitude chez les personnes énorme. C'est-à-dire ils sont centrés vraiment dans la survie du jour après jour. Ça c'est et là le gouvernement de Maduro a commis des erreurs très fortes début janvier parce que il a fait des politiques qui renforcent encore l'hyperinflation et qui renforcent tous les maux dont les Vénézuéliens souffrent. C'est une chute du PIB énorme et c'est un déclassement, pour utiliser un terme sociologique, qui est en train de tuer les gens. Donc c'est extrêmement fort, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité d'acheter ni des médicaments ni de la nourriture. Donc le premier facteur de contrôle, ce n'est pas savoir ce qui va se passer le lendemain avec vos besoins les plus immédiats. Et c'est ce qu'ils disent dans les vidéos de ces émeutes, c'est ce qu'ils disent en fait, c'est demander descendre, il y a les quartiers qui entourent la caserne militaire où l'insurrection a eu lieu hier. Ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas eu d'eau courante. Et c'était un quartier qui était desservi d'eau courante. Donc c'est énorme. Il n'y a pas de service public. Les lignes téléphoniques fixes ont été coupées sans qu'on sache trop pourquoi. C'est-à-dire que c'est une succession de choses qui vous retirent les possibilités d'avoir une vie quotidienne à peu près normale, travailler et gagner sa vie. Ça, c'est interdit maintenant au Venezuela.
Alors effectivement, qu'est-ce qui se passera après ? On comprend bien jusqu'à quel point cette question est importante pour les Vénézuéliens. Qu'est-ce qui peut se passer après ? Est-ce que l'opposition qui tient le Parlement est-elle suffisamment structurée ? Est-ce qu'elle part dans tous les sens pour créer quelque chose si d'aventure Maduro partait ? Parce qu'encore une fois, on n'y est absolument pas. Si d'aventure il se passait quelque chose, est-ce que cette opposition existe de manière structurée ? Est-ce qu'elle est capable de dire aux gens « n'ayez pas peur », pardon de plagier un peu des paroles déjà prononcées, mais est-ce qu'elle est capable de dire ça, l'opposition vénézuélienne?
Disons que surtout, elle est en train de dire « n'ayez pas peur aux militaires », dans la mesure où ils sont en train de parler avec les militaires, avec la loi d'amnistie, et ça c'est extrêmement important. Et concernant son niveau d'organisation, ce sont des partis politiques qui ont été très réprimés, dont les leaders sont inhabilités à se présenter, sont en prison, etc. Mais il y a comme un nouvel espoir extrêmement important, car la convocation faite pour aller dans la rue après le 11 janvier, etc., avec cette figure de cabildo abierto, que ça veut dire une ouverture sur la place publique pour débattre, c'est comme un grand débat national.
J'allais dire.
Exactement.
Vous l'avez enlevé de la bouche, c'est mieux que vous le disiez.
Donc ça peut être d'une certaine manière comme un phénomène cathartique, mais c'est très important parce que la libération de la parole, elle est là et les gens parlent sans avoir peur. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit donc des députés qui sont finalement les élus qui aujourd'hui ont une légitimité par rapport à ce gouvernement qui est considéré comme illégitime, qui peuvent canaliser ces demandes. On verra bien avec quel succès. Mais il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense que les Vénézuéliens, qu'au Venezuela, il y a beaucoup de gens compétents qui pourront faire ce qu'il faut pour essayer de surtout sauver l'économie et faire entrer l'aide humanitaire, que c'est les deux points dans l'agenda cruciaux, en fait. Je pense que les diagnostics sont faits et à peu près ce qu'il faut faire aussi est fait. La question, c'est avoir les muscles politiques et contrôler ceux qui détiennent la force, que c'est les militaires.
Est-ce que la dernière fois qu'il y a eu une très grosse manifestation, il y avait eu 125 morts. Hein. C'était en 2017. C'est aussi la raison pour laquelle, depuis notre siège, on peut se poser la question de savoir pourquoi les gens ne descendent pas dans la rue. Mais là, voilà la raison. C'est qu'effectivement, quand la répression est là, elle est extrêmement forte. Est-ce que, quand même, est-ce qu'il a un peu la trouille, Maduro, en ce moment, en fait ? Est-ce qu'il sent bien qu'il est en train de se passer quelque chose et que ça lui file entre les mains, notamment les discussions qu'il peut y avoir effectivement entre l'opposition et les militaires ? Est-ce qu'il y a cette crainte-là de sa part ou pas, à votre avis ?
Je pense que oui. La question, c'est que est-ce que la crainte ferait que lui, il abandonne le pouvoir ? C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un de formé ou mal formé à ne pas faire, à pas tenir compte des pressions qui peuvent venir pour un changement. C'est-à-dire, l'histoire, les quatre dernières années, il a eu beaucoup de possibilités de changer la route, de modifier, de faire des rectifications, de corriger ce qui va pas. C'est-à-dire, les responsables directs de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la crise sociale et économique, c'est lui. Mais ça n'a pas fait un effet, disons. Donc, on peut se dire, ils sont prêts à aller jusqu'où, en fait. C'est un peu une philosophie de, après nous, les déluges, et on est prêts à tout. Et ça fait très peur. Parce que justement, là, les messages de militaires, c'est, de la part de l'opposition, c'est « ne vous entretuez pas, on va négocier et faire des lois pour qu'il y ait des pardons, etc. » C'est-à-dire que c'est une situation extrême dans laquelle il n'y a pas de marche en arrière pour le gouvernement.
Mais ça veut dire, Paulo Vasquez Lezama, est-ce que ça veut dire que demain, il y a une manifestation, si Maduro dit il faut tirer sur la foule, est-ce que les militaires aujourd'hui tirent sur la foule ?
C'est ça, c'est la grande interrogation. On dirait, à partir de ce qui s'est passé hier, qui est sorti hier réprimé? Ce n'est pas l'armée des terres, surtout la caserne où l'insurrection a eu lieu, c'est la garde nationale bolivarienne, que c'est encore cher à la répression. Répression, ce sont eux qui ont réprimé les manifestations l'année dernière, surtout avec la police. Donc, on peut se dire aussi, c'est un scénario d'affrontement entre corps armés, entre forces de l'ordre armées, et ça fait très peur. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de langage politique et beaucoup de possibilités de dialogue avec ceux qui peuvent réprimer la foule. Mais il y a une grande capacité de convocation. Ces meetings, ces réunions ouvertes de débat national, c'est sont passés partout dans les pays. Ça a été assez impressionnant, surtout qu'on a eu accès à ça par les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a presque pas de médias qui puissent. Et donc là, c'est des moments de mobilisation extrêmement forte. Et demain, donc, c'est un jour qui peut faire basculer les choses.
Un jour qui peut faire basculer les choses, qu'on suivra évidemment dans Un jour dans le monde, Paola Vasquez Lesama, docteur en anthropologie. Vous avez écrit Le chavisme, un militarisme compassionnel aux Maisons des sciences de l'homme. Merci mille fois de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Et Chuck Berry, dites-moi, No Particular Place to Go sur France Inter. A tout de suite. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio, with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Place to go. So we parked way out in the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Ça ne rajeunit pas, mais enfin pourquoi pas. Après tout, Chuck Berry, qui n'a aucune place particulière où aller, ben faut rester. Alors qu'est-ce que vous voulez?
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sur les radars et Amélie Perrier. Amélie, le Japon prépare activement ses Jeux Olympiques.
Ouais, ce sera l'an prochain, en juillet-août 2020. Et l'un des problèmes à résoudre pour les autorités, c'est la question des transports. Alors on sait à quel point le métro est engorgé. Des pousseurs sont payés pour remplir au maximum les rames où les voyageurs se retrouvent entassés aux heures de pointe. Alors pour convaincre les habitants de Tokyo de prendre les transports plus tôt, avant le pic, une compagnie tente de les attirer avec un petit déjeuner gratuit. Si 2000 personnes acceptent ce pari, chacune aura droit à un tempura, un beignet gratuit. Si 2500 prennent le métro plus tôt, ce sera un plat de nouilles, des soba offertes. Et au-delà de 3000, c'est tempura et soba pour tout le monde. Alors c'est valable sur la ligne Tozai, elle transporte chaque jour plus de 7 millions de voyageurs. Entre 7h50 et 8h50 le matin, 76 000 passagers, c'est le double de sa capacité. La ville de Tokyo, de son côté, à une méthode un peu plus traditionnelle. Elle a convaincu un millier d'entreprises de laisser les salariés commencer et finir plus tôt leur journée ou d'accepter le télétravail. Des habitudes à changer dès maintenant pour que l'an prochain, quand le 1,5 million de visiteurs attendus pour les JO vont débarquer, pour que le métro tienne. Car d'après des modèles mathématiques, en l'état actuel des choses, le réseau risque tout simplement l'interruption de trafic et la paralysie de la capitale.
Donc peut-être sauvé par un plat de nouilles, si je vous ai bien suivi. Une autre précaution prise par le Japon en vue des Jeux Olympiques, c'est l'éradication des magazines porno.
Oui, les supermarchés ont prévu d'ici le mois d'août de ne plus mettre en vente les publications érotiques. On a baptisé là-bas l'opération l'exil du porno. Il s'agit de ne pas entacher là aussi l'image du pays. Toutes les chaînes de supermarchés s'y mettent. L'imagerie érotique, c'est pourtant un pan très important de la culture nippone, des estampes du 18e siècle jusqu'au manga.
Allez, en Tunisie, les lycéens manifestent pour passer leurs examens.
Hier, partout dans le pays, des jeunes se sont rassemblés devant leurs établissements. Voilà, devant les collèges, les lycées, les commissariats régionaux de l'éducation nationale à Nabeul, Monastir, Sousse, Bizerte, La Goulette ou Sfax, ils dénoncent le boycott des examens décidés par leurs professeurs pour le premier semestre. Le second est également menacé, d'où le risque d'une année blanche pour tous ces élèves. Les jeunes appellent donc les syndicats d'enseignants et le ministre à se mettre rapidement d'accord. En fait, les profs boycottent car ils réclament des hausses de salaire et des primes.
Amélie, la politique est un spectacle chez nous comme ailleurs. Et c'est encore plus vrai à l'heure des réseaux sociaux.
En Albanie, le Premier ministre est devenu une star d'Instagram, le réseau social où l'on poste des photos et des vidéos.
Vendosa, që të mos harruaj fare. Mjekrën.
Voilà, comme ce montage du passage du chef du gouvernement dans une émission humoristique début janvier. Eddy Rama, c'est son nom, il n'arrête pas de poster des messages, parfois des montages où il incruste la tête de ses opposants sur des séances de pénalty ou sur le corps d'un poulet. Un député de l'opposition venait de lui jeter un œuf. La semaine d'avant, des étudiants refusaient de venir négocier avec lui. Alors il poste une animation le montrant dans une danse du ventre tout à fait improbable au son d'un tube albanais. Là, vous visualisez, il danse, danse du ventre sur cette chanson, qui dit « Je t'attends comme toujours, tu me dis ne m'attends pas, j'espère encore, car je sais que tu viendras un jour ». Voilà, lui, il attendait des étudiants. Il a de l'humour, Eddy Rama, ancien champion de basket, artiste peintre également. Il s'est lancé en politique côté socialiste. Il a été maire de la capitale Tirana, ministre de la Culture et des Sports. Et depuis 5 ans et demi, il est donc Premier ministre. Sur Facebook, 1 100 000 personnes le suivent. Sur Twitter, 330 000. Sur Instagram, 269 000 abonnés. Un ton sarcastique, très direct, très loin de la communication politique habituelle. Ses détracteurs le critiquent d'ailleurs beaucoup à ce propos. Et il leur répond, mieux vaut un Premier ministre qui fait de l'humour qu'un Premier ministre qui tue, qui vole, qui ravage son pays. Et là, c'est une allusion à la droite qui l'a chassé du pouvoir en 2013.
C'est vrai qu'on peut difficilement le contredire. Dit comme ça, Amélie Perrier, tous les jours dans un journal monde. Merci Amélie, à demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mika,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est en Autriche, contrairement à ce que vous entendez derrière moi, que nous emmène aujourd'hui l'escale reportage d'un jour dans le monde. Mais vous allez vite comprendre pourquoi il y a un lion là juste dans le studio. Nous allons faire connaissance ensemble d'un homme pas comme les autres. Il s'appelle Amir Khalil. Il est d'origine égyptienne. Il est vétérinaire de guerre. Et depuis plus de 20 ans, il arpente les zones de conflit. Il soigne les animaux des eaux désertées ou ceux qui sont détenus et maltraités par les particuliers. Bonsoir Isorias.
Bonsoir Fabienne.
Isor, on n'oublie pas les hommes évidemment dans les conflits, mais grâce à vous, ça vaut le coup de rencontrer Amir Khalil parce que quand on sauve les animaux, on pose les armes et c'est ce qu'on apprend grâce à ce vétérinaire pas ordinaire.
Un large sourire aux lèvres, les bras grands ouverts, Amir Khalil nous accueille avec chaleur, nous faisant quelque peu oublier le froid viennois. Ce quinquagénaire austro-égyptien au charisme naturel indéniable se définit avant tout comme vétérinaire, peu importe les terrains où il intervient, une vocation née lors de son enfance égyptienne.
Au Moyen-Orient, on pouvait voir des lions, des éléphants, de nombreux animaux qui aujourd'hui ont disparu de cette région. Seuls les monuments existent encore, et c'est important, mais nous avons perdu beaucoup car nous chassons ces animaux. On ne s'en occupe pas, on ne leur donne pas assez de place dans nos sociétés. Et je ne souhaite pas que cela arrive dans d'autres pays.
À 17 ans, il quitte l'oasis d'Al-Fayoum et sa famille copte conservatrice pour commencer ses études de vétérinaire au Caire, études qu'il poursuit à Vienne, la capitale autrichienne qu'il ne quittera plus. Étudiant, il s'engage dans sa première mission aux côtés de l'ONG autrichienne Four Paws, quatre pattes en français, association pour laquelle il travaille toujours. Il s'agit alors de régler le problème des centaines de milliers de chiens errants en Roumanie. La mission le passionne, plusieurs autres suivront dans différents pays d'Europe. Des missions où il lui faut parfois ruser, comme à Brașov, toujours en Roumanie, où Amir Khalil se rend pour secourir quatre lions détenus et maltraités par un patron de boîte de nuit.
Je me souviens que j'avais dû concocter un plan avec la police. Je me suis présenté comme un cheikh arabe, un homme très riche voulant acheter les lions pour sa petite amie. Au moment de donner l'argent pour conclure l'affaire, la police est arrivée et a confisqué les animaux. C'est la première fois qu'on a saisi des lions en Roumanie. En Europe, de nombreux progrès ont été faits, mais il y a encore beaucoup de commerce illégal et de zoos qui ne sont pas aux normes. La situation s'est peut-être améliorée pour les hommes, mais beaucoup reste à faire pour les animaux dans plusieurs pays européens.
Mais très vite, c'est sur les zones de guerre qu'Amir Khalil va exercer son métier. Parlant cinq langues, le vétérinaire est à l'aise sur tous les terrains. En 2003, il part ainsi à Bagdad, la capitale irakienne alors sous les bombardements, pour secourir les 20 animaux survivants du zoo privé de Saddam Hussein, qui en comptait 650 à l'origine. La Libye et la bande de Gaza suivront, puis en 2017, ce sera Alep en Syrie et Mossoul en Irak, où la guerre contre l'État islamique fait rage. Autant d'images que le vétérinaire ne peut évidemment oublier.
Il y a des moments où j'ai été personnellement menacé, une arme braquée sur ma tête. C'est arrivé aussi que notre voiture soit arrêtée. J'ai vu des choses extrêmement cruelles, pas seulement envers les hommes, mais aussi envers les animaux. Au zoo de Mossoul notamment, je me souviens de tous ces squelettes d'animaux et de l'odeur qui s'en dégageait. Puis juste après, dans la rue, on voit un autre squelette. Celui d'un être humain.
Ces missions périlleuses nécessitent plusieurs mois de préparation logistique, mais aussi physique, pour Amir Khalil et son équipe. Malgré cela, une fois sur place, les complications liées aux enjeux géopolitiques sont légion. Seuls les animaux permettent alors de dénouer ces situations.
Dans une zone de guerre, le seul langage, c'est la haine. Si je viens par exemple d'une zone contrôlée par le Hamas et me rends en Israël ou en Jordanie, je viens d'une ligne ennemie. Donc on contrôle les animaux pour vérifier qu'ils ne portent pas d'explosifs. Mais lorsqu'on se retrouve à une frontière et que l'on porte une grande cage contenant un lion, tout le monde pose son arme à terre et nous aide à porter. Après ça, ils vont continuer à s'entretuer. Mais je vois que les animaux créent du lien entre les gens. Et ça, c'est un message d'espoir.
Les animaux secourus par Amir Khalil et Four Paws sont transférés dans plusieurs sanctuaires, notamment en Jordanie, en Afrique du Sud et aux Pays-Bas. Beaucoup sont des animaux sauvages, d'espèces parfois menacées. Préserver la biodiversité, c'est le combat d'Amir Khalil, lui qui, au fil de ses missions, n'a pu que constater les dégâts de l'action humaine.
Dans les endroits où les animaux ont disparu, la nature a changé. Nous modifions l'équilibre de la planète et c'est très dangereux, car les humains, les animaux et la nature sont tous importants. Il faut pouvoir vivre ensemble. C'est notre planète à tous. Si nous ne pouvons coexister, nous courons à notre perte. Et je crois que ce qu'essayent de faire les associations comme Four Paws, c'est de promouvoir le mot « animalité ». Le terme « humanité » signifie quelque chose, mais celui d'animalité aussi est important.
Voilà pourquoi, plus que jamais, Amir Khalil et Four Paws continuent leur combat. La prochaine mission devrait se dérouler cette année et les conduire de nouveau au Moyen-Orient.
Isor Ias, merci beaucoup. Formidable portrait de ce vétérinaire de guerre. Merci beaucoup. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par le Cameroun. Voici Blik Bassi sur France Inter et nulle part ailleurs. Woni. Sur France Inter, ça s'appelle Woni. Et ça nous arrive du Cameroun.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Sintès.
You are scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
La chronique pour tous de Julia Foyes qui nous rappelle chaque semaine qu'un homme sur deux est une femme. Bonsoir Julia.
Bonsoir Fabienne, bonsoir tout le monde.
Et vous nous donnez donc des nouvelles des femmes dans le monde, les bonnes, les mauvaises. On commence par le clip de la semaine.
C'est la dernière campagne de l'ONG Care, campagne destinée à briser le tabou des règles. Le jour se lève quelque part en Afrique, dans une rue en terre battue, un chien sauvage dans cette maison ouverte aux quatre vents, une mère et sa fille. La mère attrape un cartable, sort de la cuisine, sa fille la suit. Elle marche côte à côte, pas un mot, pas besoin, tout est dans cette étreinte sur le trottoir devant le grand portail de l'école. C'est la mère qui s'installe en salle de classe. La fille, elle, rentre à la maison étendre le linge. La première peut retourner à l'école parce qu'elle est ménopausée. L'autre a dû la quitter parce qu'elle est en pleine puberté. Une femme sur dix ne va pas à l'école pendant ces règles sur le continent africain. Au Japon, certains métiers leur sont encore interdits. En Afghanistan, elles n'ont pas le droit de se doucher pendant leur cycle. Et en Inde, pas le droit de cuisiner. Dans toutes les religions, absolument toutes, les femmes qui ont leurs règles sont considérées comme impures et alors que cela concerne a priori un être humain sur deux et en moyenne 2555 jours sur toute une vie, on oublie, on cache, voire on exclut, on ostracise, on discrimine. Vous-même d'ailleurs, au moment où j'ai dit règles, vous qui nous écoutez, vous avez sans doute pensé Burke. Bien. Pensez au nombre de fois cette semaine, voire aujourd'hui, vous avez parlé de vos autres fluides corporels, un petit œil qui pleure, un peu de nez qui coule et peut-être même quelques considérations gastriques dont personnellement je me serais bien passée. Dites-vous que c'est la même chose et vous verrez, ça ira beaucoup mieux.
Allez Julia, comme vous êtes du genre à pousser la jambe quand vous avez un orteil dans la porte...
Eh ben je vais vous en remettre une petite louche. Allez, non. Allez j'ai failli dire couche, évidemment. Non, Fabienne, s'introduire du persil dans le vagin n'a jamais aidé personne à avoir ses règles. C'est pourtant ce qu'affirmait tout récemment la version anglo-saxonne du magazine Marie Claire. Oui, le persil est bien une plante emménagogue, c'est-à-dire qu'elle contribue à réguler notre équilibre hormonal, mais en décoction, en tisane, vous voyez. À la parution du papier, de nombreux médecins britanniques s'en sont étranglés, rappelant très officiellement les dangers qu'il pouvait y avoir à glisser tout et n'importe quoi dans notre anatomie intime. Devant ce tollé, le magazine a fini par supprimer son papier, mais le persil, lui, continue son petit bonhomme de chemin. Ça n'est pas la première fois, en effet, qu'il fait parler de lui en dehors des rubriques cuisine des magazines. Cet été, la presse argentine avait rapporté le cas d'une jeune femme morte suite à une infection provoquée justement par l'introduction du persil dans le vagin. Décidément, c'est une manie. Elle l'avait fait, elle, parce qu'on racontait que le persil
permettait des avortements spontanés, et ce, dans un pays où l'IVG est toujours interdite. Ah d'ailleurs, je m'adresse à tous ces petits bouts de choux qui sentaient encore le lait, qui défilaient dimanche dans les rues de Paris pour dire non à l'avortement. C'est rigolo, hein, des ados qui veulent dénier aux femmes ce droit à disposer de leur corps. Bref, c'est le moment ou jamais de le rappeler. Les avortements clandestins, c'est une femme qui meurt toutes les 9 minutes dans le monde. On a dit quoi déjà ? Marche pour la vie ? Mon œil, oui.
Allez, on enchaîne avec votre femme de la semaine.
Qui, jusqu'à il y a peu, s'appelait Markus. Markus Ganserer était député au Parlement régional de Bavière depuis 2013, avant de faire son coming out trans au tout début de l'année. La vie de Markus n'était pas si mal, mais désormais, je suis Tessa, a-t-elle déclaré. C'est la toute première fois qu'un député trans siège au Parlement allemand, de vous à moi. Il ne doit pas y en avoir beaucoup dans le monde non plus. Elle le fera comme femme pour la première fois demain. Évidemment, elle est attendue au tournant. Évidemment, elle est scrutée de tous côtés, pas forcément pour des raisons politiques. Alors, il y a quelques jours, elle a pris les devants et tenu une conférence de presse.
Je ne fais pas ça et je n'ai pas choisi ça. Je n'ai pas choisi d'être une femme. Ce n'est pas une mode et ce n'est pas une maladie. Et pourtant, l'identité transgenre est encore largement taboue dans notre société actuelle.
D'où sa volonté de s'attaquer aux discriminations que subissent les personnes trans en Allemagne. Le discours était clair, posé, on pourrait même être légèrement bluffé par ce qui s'apparente tout de même à une forme de courage. Mais non, 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 pas pour tout le monde, pas pour ce député du FPD qui lui a lancé. Vous jouez à quoi là? À la drag queen? Aïe, 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 il y a du boulot, hein, madame la députée.
Allez, on termine avec la une de la semaine.
Il pose en famille et toute dent blanche dehors la une de Parents Magazine US, une bible en kiosque hein, pour qui voudrait se reproduire. Ils sont beaux, ses parents avec leurs deux jumeaux, ils sont jeunes, en santé, comme on dit. Mm-hmm. Normal, Shaun est prof de fitness. Quant à Scott, eh ben on s'en fiche de ce que fait Scott, parce que la plupart des lecteurs se sont arrêtés à la photo de couverture, sans un regard pour les pages intérieures qui racontaient les aventures de Shaun, Scott et des petits jumeaux. Faut dire, jamais un couple gay n'avait pris la une d'un magazine aussi classique que celui-là. Je vous laisse imaginer les commentaires outrés des lecteurs et les appels au boycott venus des rangs les plus conservateurs. Les associations de familles américaines sont vent debout contre Parents Magazine. On lui reproche principalement d'endoctriner les jeunes générations, de leur faire croire que l'homosexualité c'est normal et pire, Fabienne, de leur donner des idées. Oh mon Dieu, on lirait Parents et paf, on deviendrait homosexuel. Remarquez, c'est vrai, moi quand je vois un journal avec Beyoncé en couverture, tout à coup je me sens beaucoup plus noire.
Merci beaucoup Julia Foyce, tous les jours, non pas tous les jours dans le journal Monde, mais dommage, en même temps dommage, mais quand même à mardi prochain.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
C'est Jean-Marc qui est là tous les jours, arrangez-vous entre vous Julia, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, le monde à l'envers, Jean-Marc, bonsoir à vous d'abord.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Emmanuel Macron et Angela Merkel ont donc signé en fin de matinée ce fameux nouveau traité franco-allemand. Il y a eu beaucoup de débats ces derniers jours à l'initiative de l'extrême droite sur le fait que ce traité allait beaucoup trop loin, abandon de souveraineté, etc. Vous nous affirmez qu'on peut parfaitement soutenir l'inverse, que ce traité ne va pas assez loin. Et c'est votre monde à l'envers.
Tenez une petite archive pour commencer. Je vous montre la photo ici en studio. Vous la trouverez sur le site de France Inter. Vous reconnaissez Fabienne ?
C'est une accolade. Hein.
De Gaulle et Adenauer, en 1963, signant le traité de réconciliation franco-allemand. Un sacré geste politique. Et maintenant, voici maintenant le traité signé ce matin, 56 ans plus tard. Voilà, je voulais apporter aussi 13 pages. Et franchement, ça souffre de la comparaison. Un an et demi de négociations pour en arriver là. Le journal allemand Der Spiegel titre aujourd'hui « Grosse Pläne, kleine Schritte ». Traduction, grand projet, petit pas. On est loin des grandes envolées lyriques sur l'Europe d'Emmanuel Macron il y a près de 2 ans. Qu'en reste-t-il dans ces 13 pages? Bien peu de choses. Le budget de la zone euro, toujours dans un carton. L'Allemagne ne veut pas s'engager trop loin dans la solidarité. L'uniformisation d'un niveau minimum de droits sociaux, aux oubliettes. Un projet commun sur l'accueil des migrants, inexistant. Une ambition conjointe sur les énergies renouvelables. Rien de concret, juste un propos général. La France est frileuse là-dessus. Il y a bien quelques petits pas, c'est vrai, sur l'harmonisation du droit des affaires ou la meilleure coopération entre les zones frontalières. Et bien sûr, la réaffirmation de l'amitié franco-allemande, ce qui n'est pas rien. Mais on a surtout le sentiment que tout a été revu à la baisse. C'est un traité service minimum.
Mais alors attendez, c'est exactement l'inverse de ce qu'on entend depuis quelques jours.
Et c'est ça qui est extraordinaire. Hein. Ce qu'on entend, ce sont les fausses affirmations diffusées tous azimuts par l'extrême droite. Si on les écoute, on a l'impression que ce traité est une énormité, une intégration des deux pays sans précédent, une reddition de la France en race campagne, etc. Alors on va quand même le répéter, cette présentation du traité, c'est du super pipeau, de l'intox de A à Z. Non, il n'est aucunement question de livrer l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Il s'agit seulement d'une meilleure collaboration transfrontalière. Non, il n'est aucunement question que la France donne à l'Allemagne son siège siège au Conseil de sécurité. Il s'agit seulement de militer pour une réforme du Conseil qui, de toute façon, n'aura sans doute jamais lieu. Non, l'accord de défense ne change rien dans le cadre de l'OTAN. La protection mutuelle était déjà prévue. Non, il n'y a pas d'atteinte aux souverainetés nationales, mais des accords, je cite, dans le respect des règles constitutionnelles des deux États. Alors, est-ce qu'il faut être surpris par toutes ces élucubrations? Évidemment pas. Après le Brexit, après Trump, on devrait savoir que tout accord international, en particulier, est le terrain favori des fausses informations et qu'à l'ère des réseaux sociaux, plus c'est gros, plus ça marche. Le plus surprenant, c'est surtout que l'Élysée soit surpris.
Sauf qu'en attendant, c'est quand même sur cette idée-là d'un traité qui irait trop loin que tout le débat s'est concentré.
Oui, c'est fascinant, je me répète. Ce traité est plutôt vide et on débat sur le fait de savoir s'il est trop plein. Tout est dit, en fait, sur le fait que les termes du débat public sont désormais fixés par l'extrême droite. C'est elle qui donne le « là » et contraint le reste de la classe politique, en France comme ailleurs en Europe, à réagir sur ces sujets à elle. Bien joué. À l'approche des élections européennes, on pourrait parfaitement débattre, à l'inverse, sur plus d'intégration européenne en termes de politique économique et sociale ou d'immigration. Mais non, on débat sur l'inverse, sur la défense de la souveraineté nationale. Je suis pas en train de faire l'apologie de l'Europe en disant ça. Je fais juste un constat, c'est-à-dire que les promoteurs de l'intégration européenne, et il y en a, n'osent plus parler en positif. Ils disent seulement « ne vous inquiétez pas, c'est pas une atteinte à notre souveraineté nationale ». Il y a bien là quand même un renoncement à parler de l'Europe comme d'un projet enthousiasmant, voire salvateur, face à la désertion du protecteur américain et à l'affirmation de la Chine et de la Russie. Les pro-européens sont cornérisés, ils sont sur la défensive, ils ne séduiront jamais personne comme ça. Logiquement, une campagne pour des élections européennes, ça devrait déclencher un grand débat européen. Et bien chez nous, ça démarre sur fond de grand débat national. Il n'y a pas de hasard.
Allez, Jean-Marc Fourré et Le Monde à l'envers tous les jours dans Un jour dans le monde. Votre chronique, on la retrouve évidemment sur le site de l'émission, Jean-Marc. Mais au passage, il y a un vrai du faux de ce traité qui est sur franceinter.fr et que je vous engage
très utile.
Exactement, à aller regarder.